Bonsoir. Bien. Alors on va aborder ce soir, ensemble, l'exploration d'un continent qui est celui de la littérature orale de l'enfance, puisque c'est le beau titre qui a été retenu par le musée du Quai Branly pour cette conférence. Et je dois dire que je suis particulièrement heureuse d'intervenir sur ce thème dans un lieu qui est dévolu aux arts premiers. Et avec la littérature orale, c'est bien vraiment, véritablement d'arts premiers qu'il s'agit. D'arts premiers parce qu'il nous accompagne, cette littérature orale nous accompagne au fond du commencement de la vie jusqu'à son terme. Et on aura peut-être l'occasion de voir que les deux extrêmes de la vie se touchent, j'espère du moins pouvoir vous le montrer peut-être à la fin de ce parcours. Ensuite, parce que cette littérature orale de l'enfance est une littérature méprisée. Elle a été longtemps ignorée, méconnue, consignée au rang de littérature dévolue à ces catégories de la population qui étaient des catégories exclues ou méprisées. L'enfant, ignorant à cause de son âge, le peuple, ignorant de par sa condition, étaient tous deux unis dans le même mépris. Si vous consultez, si vous avez la curiosité de feuilleter les dictionnaires historiques du XVIIe siècle, avant même les contes de Perrault, vous verrez à propos des contes les expressions « contes de servantes »,« contes de nourrices », »,« contes de vieilles ». Cicéron déjà les appelait des fabulae aniles. Vous voyez, le stéréotype est ancien. Des contes de vieilles femmes pour des enfants. La parole du vieux exclu de la vie active pour un enfant qui est lui aussi un exclu. Et la parole, c'est pas seulement un vieux, c'est une vieille femme et qui probablement n'a plus toute sa tête. Des contes à dormir debout, dit le dictionnaire de Richelet. Des contes de ma mère loi, vous voyez. Et donc, lorsque moi qui suis universitaire, j'ai commencé à travailler sur les contes, parce que cette littérature sans auteur, cette littérature sans pédigré m'intéressait beaucoup, parce qu'elle faisait partie de mon héritage, eh bien je dois dire que j'ai eu quelques peines, je suis de formation littéraire, et j'ai eu quelques peines à obtenir, mais c'était il y a fort longtemps que les choses ont bien changé depuis, et je suis sûre que Catherine Clément, comme vous, comme moi-même, nous en réjouirons, j'ai eu quelques peines à obtenir que le conte et plus généralement la littérature orale puisse être reconnue au rang d'objet d'étude et d'objet d'étude digne d'intérêt. Allez-vous faire des études sur ces littératures sans auteur ? Qu'ont fait ces auteurs qui ont consigné des contes, me disait-on ? Ils ont mis des récits en boîte de conserve ? J'ai eu ça, y compris dans des lettres. C'était il y a fort longtemps, oublions. Nous allons parler de cette littérature orale de l'enfance qui, vous allez le voir, est un magnifique continent poétique et symbolique, extrêmement riche. Mais ici, une question se pose. De quoi allons-nous parler ? La littérature orale, vous savez, c'est une expression paradoxale qu'en 1881, Paul Sébillot introduit pour désigner l'ensemble de ces textes inscrits dans la mémoire longue, transmis de génération en génération, et qui donc, font à la fois partie de notre héritage. Ils viennent d'ailleurs et de plus loin que nous. Nous n'en sommes pas les auteurs, mais en même temps, nous pouvons nous les approprier pour leur donner une couleur qui sera fonction de l'auditoire, de l'enfant qui écoute, du lieu, de l'heure, du talent spécifique de celui qui raconte. Alors, quand je parle de littérature orale, de l'enfance, il y a à la fois la littérature orale conçue pour les enfants, ou si elle n'est pas conçue pour les enfants, comment dire, la littérature orale que les enfants s'approprient, la littérature orale qu'ils demandent, et bien évidemment, nous aurons, au nombre de ces genres littéraires, car il y a des genres dans la littérature orale, les berceuses, conçues bien sûr au seuil de la vie pour apprivoiser la peur du noir, mais aussi les contes dont nous aurons l'occasion de reparler. Et ces contes sont d'abord racontés par un adulte, le père ou la mère à l'enfant, et on aura l'occasion de revenir sur les fonctions que ces textes remplissent. Et puis il y a aussi, et ça me paraît très important parce que c'est peut-être l'occasion de faire sortir de l'oubli, enfin de l'oubli de la nuit, nous sommes au Quai Branly, donc il n'y a pas d'oubli au Quai Branly, il n'y a que de la mémoire, mais de la nuit où parfois on les a relégués, ce qu'on appelle, d'une expression que je trouve un peu péjorative, les petits genres. Et les petits genres, ce sont précisément ces récits ou ces mini-récits ou même ces formules que les enfants se transmettent et dont ils sont souvent les créateurs et les dépositaires dans des institutions de transfert que sont par exemple la cour de récréation, l'école, toutes les assemblées enfantines qui elles aussi ont leur littérature. Et nous nous posions la question de savoir, on l'évoquait en coulisses, Catherine Clément me pardonnera, juste avant cette conférence, le fait de savoir si ces petits genres ont vraiment la dignité de la littérature orale. Savez-vous qu'en 1601, paraît à Rouen un livre tout récemment réédité par les éditions Silène, donc vous pourrez vous précipiter pour le commander sur Amazon ou le chercher dans les meilleures librairies après, je le dis d'autant plus volontiers que je n'ai pas de droit d'auteur sur le livre, un livre paru en 1601, mais dont la préface est datée de 1557. Et il porte ce titre magnifique et un peu énigmatique de « Fricassé » Crotestilonée, vous vous rendez compte ? La fricassée crotestilonée qui rassemble tous les jeux et menufretins, les rimes et les jeux de l'enfance des petits-enfants de Rouen en 1601, 1557 pour la préface. Vous ouvrez ce livre pour y lire des textes dont vous vous demanderez s'ils ont véritablement la dignité d'un texte littéraire, et vous allez être extrêmement surpris. Voilà qui perdit son poussin, voilà qui envie l'aile, voilà qui l'a rôti, voilà qui l'a mangé, et voilà le pauvre petit qui jamais n'en tâtit. 1601. La belle émission de mon ami Noël Bréham, Maman les petits bateaux, eh bien vous trouverez également ce Maman les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes, sous une forme à peine différente dans la fricassée crotestilonée. Mais aussi l'escargot Bourgogne, montre-moi tes cornes. Et vous voyez, là aussi, nous sommes dans le champ de la littérature orale. Alors autant vous le dire, pour explorer l'ensemble de ce continent, il nous faudrait une nuit entière, mais vous ne tiendrez pas, peut-être moi non plus. Donc on va essayer, à l'intérieur du temps qui nous est imparti, de couvrir de la manière la plus large le champ de cette littérature. Et pour l'aborder, pour vous en montrer la richesse, je crois que je vais choisir de partir des fonctions qu'elle remplit dans la communauté enfantine, qu'elle remplit dans la famille traditionnelle et peut-être encore de nos jours, car on va voir que la littérature orale de l'enfance, précisément puisqu'elle a la force de l'enfance, ne se conjugue jamais à l'imparfait, même si elle est très ancienne. Alors, première fonction que nous allons évoquer et que j'illustrerai toujours par des genres, c'est le jeu. Le jeu, parce que c'est la première fonction que l'on évoque pour une littérature dont, je vous l'ai dit, on a tendance très souvent à la mépriser ou à en diminuer l'importance. un jeu, un simple passe-temps pour les personnes exclues de la vie active. Mais je me dois de signaler tout de suite, et c'est très important, que la distinction entre temps de travail et temps de loisir est au fond une distinction assez récente. Elle est très présente dans les sociétés contemporaines, mais vous savez bien que dans les sociétés traditionnelles, le travail accompli en commun, particulièrement le temps de travail accompli en commun, le tissage, la dentelle, l'écalage des noix, le vannage des paniers, mais aussi, après tout, les travaux des vendanges ou les travaux des champs, s'accompagnaient de textes et de textes qui avaient pour fonction de rythmer le mouvement, d'accompagner le geste, de stimuler l'énergie. Donc, on s'apercevra que cette fonction de jeu, elle est très importante, mais il nous faut aller plus loin que l'idée du passe-temps. La première forme de jeu que je voudrais évoquer, et je m'appuierai pour ce faire sur les distinctions établies par Roger Caillois, c'est la compétition, bien sûr. Parce que très souvent, dans les formes d'oralité vivante, il y a de la joute. On se mesure à l'autre, on se mesure à soi-même pour tester ses propres limites. Il y a de la joute verbale, et je voudrais immédiatement vous en donner un exemple, avec, on va commencer par un petit genre, avec ce petit genre que l'on appelle en anglais les tongue twisters, en italien des sciola lingua, en français des vire-langues, mais je dois dire que ce néologisme des ethnologues n'a pas eu beaucoup de succès. Ce sont les formulettes de volubilité à prononcer très rapidement, qui sont aux enfants dans la cour de récréation, comme d'ailleurs aux comédiens dans les cours d'art dramatique, ce que sont les petits cailloux de Démosthène. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras-tu ? Je me des petits pots de beurrerai quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurreront. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou bien, dis-donc, dina, dit-on, du dos, do, du dun, do, du dindon, ou bien, dis-donc, tanté, tatiloté, tatou, dis-donc de Dordogne. Et je vous assure que sous toutes les latitudes et dans toutes les langues, il y a des formulettes de volubilité qui permettent à l'enfant de tester ses limites et bien entendu de rire de l'erreur, parce que très souvent il y a du double jeu de l'erreur qui est celle de son camarade. C'est une première forme de compétition. Plus importante pour nous, peut-être, c'est un genre qui me passionne et auquel j'ai consacré depuis longtemps une attention particulière, la devinette. La devinette est un genre très curieux. Elle a évidemment ses lettres de noblesse, y compris pour la psychanalyse avec l'énigme de la sphinge à Œdipe. Et vous n'oubliez pas que la question du sphinx à l'entrée de Thèbes, ou de la sphinge, puisque c'est un monstre femelle, la question de la sphinge, c'est, elle se pose dans les termes de « devine ou meurs ». Si tu ne réponds pas à la devinette, alors tu mourras. Les garçons se précipiteront dans l'abîme. Dans les devinettes enfantines, la mutilation, le danger encouru est plus simple. L'enfant dira simplement « je donne ma langue au chat », ce qui est une forme de castration symbolique. Mais enfin, réfléchissons ensemble. La devinette est une question que je vous pose, à laquelle vous serez peut-être tenté de répondre, nous allons nous mesurer, alors que j'en connais la réponse. La plupart des questions que nous posons sont destinées à obtenir une information qui nous échappe. Donc vous voyez bien qu'avec la devinette, il s'agit de tester autre chose. Il s'agit de tester une connivence commune, un territoire commun. Si ma devinette est trop facile, vous vous direz, ai-je bien fait d'aller ce soir au musée du Quai Branly ? Sûrement pas. Il y avait mieux à faire. Si elle est trop difficile, vous serez découragé. En même temps, si je pose une devinette à l'autre et qu'il ne connaît pas la réponse, c'est pas devine ou meurt, il est obligé de donner sa langue au chat. Mais tout de même, si c'est un enfant qui pose une devinette à un adulte et que l'adulte ne puisse pas répondre, eh bien, il y a bien des ethnies où cela fera question. Il est, par exemple, interdit chez les Dogons, aux enfants Dogons, de poser des devinettes à de plus âgés qu'eux. Imaginez dans quelles difficultés se trouverait, vous voyez, on n'est pas très loin de la problématique de la petite poussette de Michel Serres, se trouverait le père ou le grand-père qui serait dans l'impossibilité de répondre. La devinette, c'est une perle de parole. J'emprunte cette expression à Marcel Jousse. C'est une perle de parole parce qu'elle est polie par l'usage et qu'elle va nous amener au fond, à tester sous la forme peut-être la plus frappante. C'est beaucoup mieux que le pitch dont on nous parle aujourd'hui si souvent. Un objet qui est souvent un objet du monde quotidien, un geste familier, un mouvement, qui fait qu'après avoir entendu la devinette et y avoir répondu, vous ne regarderez plus jamais cet objet de la même manière. Oh, évidemment, si je vous dis qu'est-ce qu'on lance en l'air blanc et qui retombe jaune, vous allez répondre avec un bel ensemble. Je vois vos bouches déjà se former pour me dire un œuf. Si je vous dis qu'est-ce qu'il y a ces tétines sur l'échine, ah, c'est déjà un peu plus complexe. Qui voit, qui sait ? Je ne vais pas vous laisser chercher, nous avons peu de temps. C'est le fromage blanc lorsqu'il sort de la faisselle. Et vous voyez que quand vous le sortirez de la faisselle ce soir, vous regarderez peut-être déjà autrement les petites tétines qui se trouvent sur le dos du fromage blanc. Si je vous dis, pour rester toujours dans la devinette populaire, lequel de tes enfants aimes-tu le plus ? Vous serez peut-être tenté, et c'est une devinette qui intéresse beaucoup le sujet de la littérature orale de l'enfance dont nous allons parler. Vous allez peut-être être tenté de me répondre, mais cette question ne vaut pas. Je les aime tous autant et tout autant. La devinette populaire répond autrement. Lequel de tes enfants aimes-tu le plus ? Le plus petit jusqu'à ce qu'il grandisse ? Le malade jusqu'à ce qu'il guérisse, l'absent jusqu'à ce qu'il revienne. J'évoque ça dans une librairie où il n'y a pratiquement que des adultes, mais un petit garçon que je connais, qui est le deuxième d'une fratrie. Il est venu avec sa mère. Je suis en train de parler de mon livre « La clé des contes » que vous aurez peut-être envie de lire, qui sait, après cette conférence. En tout cas, je vous le souhaite parce qu'il faut revisiter les contes. Eh bien, l'enfant entend la devinette, il se lève, il est le deuxième d'une fratrie de trois frères et il dit à sa mère « Maman, je suis le plus petit, je suis malade et d'ailleurs je ne suis pas là ». Il a immédiatement, vous le voyez, et je l'ai vu de mes yeux vus, hein, ce n'est pas une histoire de seconde main. Je connais ce petit garçon, il s'appelle Nicolas. Il a immédiatement intériorisé la devinette pour en faire à l'intérieur de la fratrie un message à sa mère, à bon entendeur, salut. Il n'est pas très facile d'être le deuxième. Et là où les parents, au fond, voyaient quelque chose qui était peut-être d'une réflexion poétique, etc., lui voyait le moyen d'inscrire quelque chose de sa relation à la mère. Et c'est très fort. Dernière devinette, parce que le temps nous manque et il y a tant de... Mon Dieu, je parle trop. Il y a tant de choses à évoquer. Mais celle-là est très, très belle et très forte. Devinette populaire encore. Je porte... Celui qui porte, celle qui porte, celui dont la carrure peu forte porte pourtant dès aujourd'hui celui qui portera plus loin qu'aucun fusil ne porte. Bon, la devinette telle que je l'ai lue parle du mousquet, mais enfin c'est l'ancêtre du fusil. Est-ce que vous avez une idée ? Là encore, elle est compliquée. Je porte celui qui porte. Je vais dire, vous vous faites plaisir, c'est bien. Vous profitez de l'avantage d'être à la tribune. Oui, mais la devinette nous dit quelque chose de très important. Je suis le soulier qui porte la femme enceinte, qui porte dans son ventre celui dont la carrure peu forte, l'enfant à naître, comment faut-il le nommer ? Porte pourtant dès aujourd'hui celui qui portera plus loin qu'aucun fusil ne porte le regard humain, le regard plus fort que l'arme que l'homme a inventée pour tuer la vie. C'est très fort, vous voyez, il y a de quoi méditer à l'heure où nous sommes, alors que des enfants meurent sous les bombes. La devinette, vous le voyez, quand je vous dis, c'est une perle de parole. Oui, c'est un petit genre pour les ethnologues, mais selon moi, c'est un genre qui mérite toute notre attention et toute notre estime. Enfin, nous n'en étions qu'à la mise à l'épreuve, donc je vais cheminer. Compétition et mise à l'épreuve. Je vais parler d'une deuxième forme de jeu qui est l'imitation. L'imitation, elle est très importante dans l'éducation de l'enfant, mais parce que très souvent, on va le voir dans l'apprentissage linguistique même, il y a, notamment chez les enfants, le désir de comprendre, d'abord le langage des adultes, bien sûr, on apprend, mais aussi ces langages de l'univers qu'on désigne dans une très belle expression, dans un très beau conte, sous le titre de « langage obscur ». Le langage de la pluie, le langage de la pluie sur les toits, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le langage du vent dans les arbres, le langage des oiseaux, le langage des animaux. Et c'est d'autant plus important pour l'enfant que vous savez bien que l'enfant est animiste à peu près au moins jusqu'à l'âge de 7 ans. Pour lui, la pierre est vivante puisqu'elle roule, le torrent est vivant puisqu'il dévale le ravin. Or, les contes nous disent, et il y a une série de contes qui nous disent ça très fortement, qu'au fond, l'univers parle un langage dont nous avons perdu la clé. L'univers continue de parler, simplement nous ne le comprenons plus. Et il y a, dans la littérature orale de l'enfance, ces petits contes, encore des petits contes, vous voyez, encore des petits genres, qu'on appelle des mimologismes. Le mot est très savant, c'est très joli pour les dîners en ville, mais la chose est simple. Des mimologismes, ce sont des récits qui nous donnent une interprétation humaine des chants d'oiseaux, des cris d'animaux, du son de la cloche auquel Alain Corbin a consacré dans Les cloches de la terre une si belle étude, ces cloches qui rythmaient la vie, de tout ce que nous entendons aujourd'hui, comme quoi, comme un bruit, mais qui en fait nous parle. Le mimologisme nous demande d'ouvrir l'oreille. Alors il y a des mimologismes qui sont à peine des récits, et il y a, jusqu'au cœur des plus grands contes, je vais vous en donner un exemple, des mimologismes où l'animal ou l'oiseau, parfois même la plante, parfois même la pierre, parle un langage qu'il s'agit de décrypter. Mimologisme isolé, sous forme de mini-récit. C'est l'histoire d'un fermier qui ne peut pas payer ses dettes, il est endetté jusqu'aux yeux, et il ne peut pas, et d'ailleurs il ne veut pas payer ses dettes. Alors les oiseaux se réunissent et discutent de son cas. Communauté des oiseaux, vous voyez la conférence des oiseaux avant Attard. La caille dit « paye tes dettes, paye tes dettes ». La perdrix dit « paieras-tu, paieras-tu, paieras-tu ». L'oie dit « je paieron, je paieron, je paieron ». Le canard dit « quand, 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 quand ». Et le mouton « jamais ». Bon, je ne vous le fais pas bien parce que je ne suis pas conteur de mimologisme. Pardonnez-moi, je ne suis qu'universitaire. Mais enfin, vous voyez de quoi il retourne. Prenons maintenant, si vous le voulez, le cas d'un grand conte où le mimologisme surgit. Et souvent, pour le repérer, il faut entendre le conte, évidemment, notamment s'il s'agit d'un conte entré en littérature, non pas dans la langue d'origine, mais dans la langue dans laquelle il a été fixé. Je veux parler du conte de Cendrillon des frères Grimm. Si vous l'avez lu dans la traduction de Marthe Robert, dans la petite collection Folio, vous verrez, il y a un moment très, très célèbre où, lorsque, vous savez, la méchante sœur s'est tailladée le pied, le sang coule, elle s'est coupée le talon, et la voilà qui s'en va avec le prince, qui a dit qu'il épouserait celle qui pourrait chausser la pantoufle, alors il est bien obligé d'épouser, voilà, il tient parole. Et il y a des colombes sur l'arbre qui chantent. Et je dois dire que j'ai commencé par la traduction de Marthe Robert. J'étais très surprise. Les colombes disaient, dans la traduction de Marthe Robert, « tournoutouque, sans dans la pantouque, la vraie fiancée est encore à la maison. » Enfin, je vais voir le texte des Grimm. « Rouk digouk, blout ist im schouk, der schouk ist zu klein, die rechte braut sitzt noch daheim. » Rouk digouk, c'est le roucoulement de la colombe, n'est-ce pas ? Le sang est dans la pantoufle, le soulier était trop petit, la vraie fiancée est encore à la maison. Et vous voyez, même pour cette très grande spécialiste, au demeurant, pas seulement de l'oralité, mais des liens familiaux, du roman familial qu'est Marthe Robert, quand elle écrit « Tournoutouk », elle n'a pas conscience qu'il s'agit d'un mimologisme. Alors, là encore, un conteur doué, artiste à part entière, vous ferait entendre le roucoulement de la colombe, mais vous voyez sur quoi nous jouons. Et donc, ces petits récits qui sont de l'ordre de l'imitation nous permettent à la fois, permettent à l'enfant, eh bien sûr, de favoriser, comme la formulette de volubilité, l'apprentissage linguistique, mais en même temps, ils vont lui permettre d'accéder au langage obscur et de prêter une oreille attentive à l'univers. Voilà quelque chose dont il me semble que l'écologie pourrait s'emparer à bon droit. Je n'entends pas beaucoup parler du langage obscur, mais peut-être qu'on va pouvoir le leur suggérer dans la campagne présidentielle à venir. Ce serait intéressant de réentendre le langage obscur, n'est-ce pas ? Voilà, alors ça c'était pour l'imitation. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons parler de l'explication des origines. C'est une autre fonction, et c'est une fonction qui va me permettre d'entrer un peu plus avant dans le domaine des récits, dans le registre des contes. Vous savez que l'enfance, c'est le temps du questionnement, et en général, la question de l'enfant, c'est un « pourquoi ?». Pourquoi les chiens et les chats se disputent ? Pourquoi les rossignols ne chantent que la nuit ? Pourquoi les ours n'ont pas de queue ? Pourquoi les colombes... Bon. À ces questions, très souvent, l'adulte répond « tu le sauras quand tu seras plus grand » ou bien « va voir ta mère ou ton père », enfin ça dépend. Alors qu'il y a, dans la littérature orale, des milliers de récits qui répondent à ces questions que l'enfant se pose et nous pose. Ces récits, on les appelle des contes étiologiques, c'est-à-dire des contes d'explication des origines. Alors vous me direz peut-être qu'évidemment, le récit des origines, pour vous, le récit à part entière, c'est le mythe, parce que le mythe, bien sûr, se situe dans ce temps des origines et va rendre compte de la naissance d'une nation, d'une famille, d'une ethnie, d'une ville, d'une cité, d'un empire. Mais il y a aussi les contes étiologiques qui répondent à ces questions. Et ces contes sont parfaitement connus, parfaitement répertoriés dans le folklore traditionnel. Les folkloristes du XIXe siècle les appelaient des pourquoi. Alors, je vais vous en donner un pour que vous compreniez bien le mécanisme, un très court, rassurez-vous, dans le temps qui nous est imparti. C'est encore un conte de Grimm. En tout cas, je vais le donner dans la version de Grimm. Et vous allez voir que telle est la force du conte. Qu'en nous focalisant sur un objet de notre quotidien, quand vous sortirez de cette salle, je suis sûre que vous regarderez cet objet autrement, comme le fromage blanc de la faisselle. C'est l'histoire de la fève, de la braise et de la paille. On nous raconte qu'au commencement, c'est toujours le temps du récit étiologique, au commencement, la fève, la braise et la paille étaient très bonnes amies. Et puis un jour, lasses au fond d'un quotidien heureux mais routinier, elles ont décidé de voyager. Et voilà qu'elles sont parvenues au bord d'une grande rivière, mais il n'y avait pas de pont. La paille, qui était au service de la communauté, a dit « Je vais m'allonger sur la rivière. » Et comme nous sommes dans le conte, elle pouvait s'allonger à plaisir et vous passerez sur moi. La fève est passée sans encombre en gambadant. La braise s'est engagée sur la paille. Mais la braise rougeoyait, elle était très timide. Elle s'est arrêtée au milieu de la paille. Elle a vu que le chemin qu'elle venait de parcourir était tout petit et que celui qui lui restait à parcourir était immense. La paille s'est enflammée, la braise et la paille sont tombées à l'eau et ont barboté. Et de l'autre côté, à pied sec sur la rive, il y avait la fève, qui, voyant ses amis barboter dans la rivière et boire la tasse, a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire si fort que tout son corps a éclaté. Elle a donc été obligée de courir chez le tailleur, qui, pour la réparer, lui a fait sur le dos vite, vite une petite couture noire. Et c'est depuis ce temps que toutes les fèves et tous les haricots du monde ont une petite couture noire sur le dos. Vous voyez, pourquoi les haricots ont une petite couture noire sur le dos? Tout ça pour ça, pour expliquer cette particularité que l'enfant, très souvent, dans son attention très, très ouverte, très spécifique aux objets, peut porter à des choses que nous ne voyons même plus. Mais maintenant, nous verrons, grâce au conte, la petite couture noire. Donc, il y a des pourquoi très nombreux qui répondent à ces questions que l'enfant se pose et nous pose. Et puis, mais ça m'entraînerait trop loin. Je surveille l'horloge, je suis dans une course contre la montre. Donc pour l'instant, nous allons rester là pour l'explication des origines. On en reparlera peut-être plus tard ensemble. Il y a dans la littérature orale de la morale. Oui, bien sûr, une fonction morale. Alors vous allez me dire, les moralités, au fond, c'est pour la fable. La fable de La Fontaine, en général, s'accompagne d'une moralité avec laquelle on peut jouer. Et dans les contes, il peut y avoir une morale explicite, mais bien souvent aussi, il y a des contes qui ne tirent aucune morale. Avant d'aller plus loin, je dois vous rappeler ici une vérité fondamentale à laquelle le grand succès du livre de Bruno Bettelheim a fait peut-être quelque ombrage. C'est que les contes dans les sociétés traditionnelles n'étaient pas destinés spécifiquement aux enfants. Le conteur s'adressait à un cercle où toutes les générations étaient confondues. Les enfants se sont peu à peu appropriés des récits qui ne leur étaient pas spécifiquement destinés et l'on a pu, au fond, assimiler un peu rapidement le conte à la littérature de jeunesse. Aujourd'hui, le conte, c'est d'abord un matériau psychopédagogique très privilégié pour le lecteur ou la lectrice de Bruno Bettelheim, précisément, ou de Pierre Péjou, enfin, même s'il répond à Bruno Bettelheim. Mais c'est l'appréhension que nous en avons. Or, il y a une catégorie de contes qui a été conçue à l'usage exclusif des enfants. Laquelle ? Pas les contes merveilleux, chers amis. Pas les grands contes, mais les contes qui se terminent mal. Ces contes qui se terminent mal sont des contes d'avertissement qui participent de ce qu'on a pu appeler une pédagogie de la peur. Le conte d'avertissement, il est bâti sur un schéma très simple. Un personnage, généralement adulte, détenteur de l'expérience et de la sagesse, formule une interdiction. Le héros la transgresse. Il est puni. Ce qu'il fallait démontrer. Et voilà pourquoi il faut écouter la parole des adultes. On a ainsi inventé des récits pour mettre en garde l'enfant contre tous les dangers qui peuvent le menacer. Le loup, le feu, l'eau, le risque de se perdre en forêt, l'agresseur possible. Et cette pédagogie de la peur a trouvé très tôt ses détracteurs. Bien avant la psychanalyse de l'homme au loup, vous savez, c'est dans les 5 psychanalyses de Freud. Freud est confronté à un patient qui fait un rêve, qui est un rêve obsessionnel de 5 loups blancs sur un arbre immobile qui le regarde fixement. Et on va retrouver à l'intérieur de cette psychanalyse la trace douloureuse, le traumatisme du conte qu'il a entendu dans son enfance, le loup, la chèvre et les chevreaux. Bien avant Freud, déjà à l'époque de Perrault, il y a un avis au père de famille qui dit « On leur fait peur du loup-garou, On leur fait peur de la grande bête. Le gros loup va sortir du trou qui, pour les avaler, s'apprête. Enfin, ces petits malheureux n'ont que des monstres autour d'eux. Oui, mais bien sûr, quand on raconte à un enfant que s'il ne se mouche pas, son nez va pourrir. Oui, c'est un mini-récit. Quand on raconte que s'il met ses doigts dans son nez, il aura un nez gros comme celui du roi Nasibus, qu'il sera obligé de promener dans une brouette. Quand on dit à une petite fille que si elle se regarde trop souvent dans la glace, quelques jours, elle y verra le diable. Je donne des exemples qui sont évidemment des exemples traditionnels empruntés pour le coup à la littérature orale française, mais ça a des équivalents bien ailleurs. Quand on dit à un enfant qui accueille un conseil de son père ou de sa mère, par ce geste, il est vrai peu courtois, « Attention, tu fais pleurer le petit Jésus ». Quand on dit à un enfant qui ne veut pas se laver les cheveux, « Attention, les poux viendront ». Ils feront une corde de tes cheveux, ils te traîneront à la rivière et tu vas t'y noyer. Évidemment, on peut être amené à se dire parfois que le récit est pire que le mal qu'il fallait dénoncer. Et vous voyez pourquoi on peut parler vraiment d'une pédagogie de la peur. En même temps, il me plaît ici d'évoquer un maître et un ami qui est Marc Soriano. Marc Soriano, grand spécialiste des contes de Perrault et de la littérature de jeunesse, qui a été confronté, comme n'importe quel parent ou grand-parent ici, à la difficulté suivante. Il habitait dans un appartement parisien, au cinquième étage d'un appartement sur lequel il y avait un balcon. Et dès que les petites filles ont été en âge de marcher, trois filles, 3, 4, 5 ans, elles n'avaient qu'un rêve, aller sur le balcon pour regarder ce qui se passait en bas. Et dès qu'elles ont été en âge de pousser un tabouret, enfin vous voyez. Alors il y avait eu des interdictions, rien ne marchait. Madame Soriano, le doigt levé, disait « Je vous interdis ». Marc, qui connaissait bien les contes, leur a dit « Savez-vous qui habite au quatrième étage ?» Non, c'est la fée pesanteur. C'était aussi un amoureux de l'histoire des sciences. C'est une horrible sorcière. Et si les enfants se penchent, elle les attrape par les cheveux et elle les tire. L'aîné des petites filles s'est approché du balcon, a regardé, a dit « Oh, je la vois, elle est horrible !» Et elles ne sont plus jamais allées sur le balcon au risque de s'y pencher. Il avait, dans l'instant, inventer un conte d'avertissement pour mettre en garde l'enfant contre ce danger-là, vous voyez ? Et il y a des récits, de grands récits, dont on a pu penser, peut-être à tort, qu'ils étaient des contes d'avertissement. On reparlera peut-être lors des questions qui suivront du petit chaperon rouge dans la version de Perrault, puisqu'il se termine mal, la petite fille est mangée, alors le loup se jeta sur la petite fille et la mangea. Vous remarquerez néanmoins que dans la version de Perrault, la mère ne formule aucun avertissement, n'avertit pas sa fille du danger encouru, et donc il n'y a pas vraiment de désobéissance, donc c'est compliqué. Enfin, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Le conte d'avertissement met les points sur les i. « Prends garde, mon enfant ». Une anecdote quand même, car Henri Pourrat disait « Les meilleures histoires sont celles qu'on n'invente pas, celles qui sont arrivées ». C'est une grand-mère anglaise qui a lu très attentivement Bruno Bettelheim et qui vient me voir un jour à Londres à la fin d'une conférence et me dit « Bruno Bettelheim est très opposé à cette pédagogie de la peur et au traumatisme que peut induire le conte d'avertissement ». Qu'il attribue à l'imaginaire d'un esprit qui pourrait être un esprit malade ou morbide. Or, mon petit-fils de 3 ans m'a demandé pendant des années un conte d'avertissement qu'il avait lu dans un livre de Jeannot Lapin. C'est l'histoire du petit lapin qui rêvait d'aller voir les locomotives. Un jour, sa mère est allée au marché pour acheter des carottes. Le lapin s'est précipité sur la ligne de chemin de fer. La locomotive est arrivée et elle lui a coupé la queue. L'enfant réclamait à ses parents, à sa mère, à sa grand-mère, à sa grande sœur, invariablement la même histoire. Et la grand-mère qui avait lu Bettelheim s'inquiétait du psychisme de l'enfant jusqu'au jour où on l'a baigné un soir. C'était un week-end chez des amis, avec une petite fille de son âge, dans la même baignoire. Et il a fait la découverte, évidemment sidérante, de cette petite différence qui sépare le petit garçon et la petite fille. Il a appelé sa grand-mère et il lui a dit « Well, Granny, she must have gone on the railway line. » Elle a dû aller sur la ligne de chemin de fer. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus du tout réclamé ce récit. Ce qui veut dire, vous voyez, que la grand-mère lisait cela comme un conte d'avertissement, et là, on était dans un récit sur le complexe de castration. L'enfant sait parfaitement ce dont il a besoin. Le récit dont il a besoin, c'est celui qu'il vous réclame. Peut-être ne saurez-vous pas ce qu'il entend là. Peut-être ne saurez-vous pas pourquoi il réclame ce récit. J'aurai peut-être l'occasion de vous raconter à cet égard tout à l'heure une anecdote plus personnelle. Mais enfin, racontez-le lui. C'est celui dont il a besoin pour grandir. Et ce cap-là passé, il l'oubliera. Donc, morale. Morale particulièrement présente dans les contes d'avertissement, particulièrement présente aussi dans les proverbes ou les dictons, ces perles de parole qui participent aussi de la littérature orale et qui accompagnent, enfin qui sont les fruits de l'expérience. Vous savez que très souvent, par exemple dans des communautés africaines, le juge rend une sentence en formulant un proverbe ou un dicton. Ben, très souvent, on va accompagner l'enfant par « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme on fait son lit, on se couche, pierre qui roule n'amasse pas mousse », et on lui demandera de méditer ses leçons. Il s'empressera d'ailleurs de prendre le proverbe pour le tordre et lui faire dire autre chose, car faut-il le dire, l'une des grandes qualités de la communauté enfantine, c'est qu'elle est irrespectueuse et que par conséquent, elle va s'emparer du modèle des adultes pour les subvertir. Chanson enfantine. Je donne un exemple de cette subversion. On va parler ici de la subversion dans la littérature orale. Frère Jacques, dormez-vous. Je suis sûre que vous avez entendu « Hommage soit rendu à ce grand fondateur dans ce lieu. Frère Jacques, Jacques Chirac, dormez-vous. » Je l'ai entendu dans l'école maternelle de la rue Corbon. Et peut-être que le président de la République, voyez, auquel nous devons ce grand musée, eh bien, s'inscrira aussi dans la littérature orale de l'enfance. En tout cas, il y a eu une voie d'accès par cette chanson-là que les enfants ont adapté, ont détourné. Apprentissage de l'école. 1, 2, 3, je m'en vais au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles sont toutes rouges. Vous connaissez la chanson. Subversion par la communauté enfantine qui opère un détournement de comptine. La comptine étant la formulette par laquelle on apprend à compter. 1, 2, 3, déculottez-moi. 4, 5, 6, levez ma chemise. 7, 8, 9, tapez comme un bœuf. 10, 11, 12, les fesses sont toutes rouges. Et vous voyez que la communauté enfantine est au fond, à l'égard de ce qu'on appelle aujourd'hui le châtiment corporel, elle est à la fois subversible et semble-t-il, en tout cas pas totalement traumatisée, pas traumatisée au point de ne pas subvertir le texte. Donc, il y a toujours, vous voyez, une capacité qui est une capacité de détournement. On va laisser de côté cette fonction de subversion. Cher à Jacques Elias, et qui ferait le pont avec les grandes révoltes. Si je compte, disait un conteur breton à Jacques Elias, c'est pour réagir contre tout ce qui nous brime. Donc, on va laisser de côté pour l'instant cette fonction pour parler peut-être d'une autre fonction qui est la mémoire, la mémorisation. Je voudrais insister là-dessus parce que nous sommes avec, on a beaucoup dit que les enfants des nouvelles technologies s'inscrivaient dans l'instant, notre siècle est marqué par une accélération du temps. Quand je dis notre siècle, je parle du 21e, ça s'est considérablement accéléré. Et à un moment où toute l'information du monde semble être sur nos écrans à tout moment disponible, Que pouvons-nous cultiver à fréquenter la littérature orale et particulièrement les contes? Eh bien, un exercice de la mémoire qui, dans la littérature orale, mêle différentes modalités du temps. J'en évoquerai cinq très rapidement, qui étaient chères à, notamment à Daniel Fabre et à Jacques Lacroix. J'évoque leur classification dans la tradition orale du conte occitan. Il y a d'abord le temps mythique, radicalement coupé du nôtre, le temps des origines, un temps qui n'appartient pas à l'histoire ni même à la préhistoire. Dans les contes, ça se traduit par « c'était au temps où les bêtes parlaient ». C'était au temps où les bêtes parlaient, où les aveugles voyaient, où les boiteux dansaient. C'était au temps où les petits cochons se promenaient tout rôtis par les rues et dansaient aux noces de Cendrillon. C'était au temps, dans les contes religieux, où le bon Dieu et Saint-Pierre se promenaient ensemble sur la terre. C'était au temps où ce qui nous paraît aujourd'hui inaccessible ou impossible était à portée de main. C'était au temps des contraires abolis. Ça, c'est le temps mythique, le temps où les bêtes parlaient. Il y a le temps historique. Mais le temps historique, c'est le temps d'une histoire qui n'est pas celle des historiens. Elle laisse dans l'ombre des siècles entiers, elle met en lumière des faits saillants. L'histoire que je vais vous raconter, me disait un conteur auvergnat, s'est passée au temps des barbaresques. Les barbaresques. Très beau mot qu'on ne voit plus guère que dans un certain nombre de récits d'aventures ou de livres d'histoire. Et je lui dis, c'était quand ? Oh, c'était il y a bien longtemps. Peut-être au temps des rois, peut-être Louis XIV. Et c'était très beau car en fait, il y a eu des épisodes barbaresques pendant le siècle de Louis XIV. Mais enfin, c'était comme cela que cette mémoire ressurgissait. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au temps de la Grande Révolution. Parce que depuis la Grande Révolution, dans les campagnes, on ne sonne plus l'Angélus et que les sorcières et que les diables et que les esprits sont revenus. Voilà comment l'histoire s'inscrit. Il y a le passé indéfini du conte merveilleux. Il était une fois. Once upon a time. Es war einmal. Dans toutes les langues. Il était une fois, mais quand ? Il était une fois, il sera une autre fois. Vous voyez, le « il était une fois » qui nous inscrit dans le temps de la fiction. Le conte nous disant « je suis une fiction, je suis une histoire inventée à plaisir ». J'en viens à des temps qui vous intéresseront, j'en suis sûre, encore davantage. Il y a le temps familial. Le temps familial qui inscrit le récit dans une mémoire partagée. Le grand-père de mon grand-père de mon grand-père a vécu cela. Et de génération en génération, vous savez, on remonte très vite jusqu'à l'Ancien Régime. Je vais te raconter une histoire qui me vient de ton grand-père. Je vais te raconter une histoire, bah tiens, c'est celle de ta tante qui est partie un jour sur les mers. Bon. Alors, défiez-vous évidemment des récits familiaux, parce que vous allez vous apercevoir que très souvent, dans ces récits familiaux, il y a de grands motifs de contes. Il y a de grands motifs de conte, il y a des récits qu'au fond, la tradition orale, elle chemine, vous voyez ? Et on s'est approprié l'histoire. Le conte s'est invité chez vous. Un soir, me dit un ami sicilien, est arrivé, je suis sûre que c'est un conte qui ravirait les enfants, est arrivé à la porte de mon grand-oncle, un pauvre. Il avait frappé à toutes les portes et toutes les portes s'étaient fermées devant lui. Mais mon grand-oncle était un homme généreux. Il lui a donné son lit, il l'a invité à sa table, il l'a fait coucher dans son lit. Vous voyez, c'est Monseigneur Myriel et Jean Valjean. Et puis, sous la cendre, il a mis sous la cendre des galettes pour qu'elle reste chaude de la cendre de la nuit. Et il a dit au pauvre, demain, vous pourrez les emporter. Et quand il s'est levé le lendemain, mon grand-oncle, il avait dormi sur un mauvais lit. Ben, il est allé voir le pauvre, mais le pauvre était parti. Il est allé à la cheminée pour voir s'il avait emporté les galettes. Et sais-tu ce qu'il a trouvé ? J'étais naïve en ce temps-là, je lui dis oui, il a trouvé des galettes en or. Et sais-tu qui était le pauvre ? Et je dis, mais bien sûr, c'était Jésus-Christ. Et mon ami était furieux. J'ai eu beau lui expliquer que c'était une légende qui avait cours dans toute l'Europe sous des formes diverses, je lui volais la mémoire de son grand-oncle. Ce qui est important, me semble-t-il, j'ai eu tort, hein, j'avais tort, bien entendu, ce récit lui appartient en propre, ça n'est pas de vérifier si la mémoire familiale traduit la réalité. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'elle nous dit de notre héritage. Une de mes sept tantes, car j'ai sept tantes du côté maternel, se targue, en tout cas dans la légende familiale, d'avoir épousé un Américain, elle qui était née dans le Jura profond. Elle était partie sur les mers, elle avait épousé un Américain dont elle avait divorcé le même jour. C'était la légende familiale. Cette tante est défunte, aujourd'hui j'ai hérité des papiers. Donc j'ai vu. L'Américain, il s'appelait Camborough, elle l'a épousé à Marseille. Enfin, s'il était américain, c'était Camborough. Hein. Je ne suis pas sûre du tout. Elle a divorcé, il est vrai, 3 mois après. Mais il n'importe. On a peut-être gardé le souvenir d'un amant américain et d'un homme qu'elle avait mis à la porte. Et c'est devenu une légende familiale qui, pour l'enfant que j'étais, a été nourricière. La femme est maître et maîtresse de son destin. C'était une histoire de liberté. Et puis, il y a le temps individuel, chers amis. Le temps individuel que je n'ai pas encore utilisé, mais je pourrais. Le temps de celui qui dit « de mon temps ». De mon temps, mon Dieu, le temps est presque écoulé. Vous savez ce qui va suivre. De mon temps, les filles étaient sages. Les hommes étaient des hommes véritables. Les arbres portaient plus de fruits. Le ciel était véritablement bleu. De mon temps, on avait une orange à Noël, mais on savait ce qu'un cadeau, le caveau est un lapsus révélateur, ce qu'un cadeau voulait dire. Le de mon temps est toujours l'évocation d'un âge d'or, celui de la jeunesse du récitant. Bien sûr, c'est un âge d'or idéalisé, qu'on va présenter comme un modèle, mais très souvent, ces histoires marquées au coin du temps individuel se présentent aussi comme des leçons possibles. En tout cas, je crois qu'il est très important de tisser ces diverses modalités du temps, et dans la littérature orale, elles se tissent, hein, le temps mythique, le temps historique, le passé indéfini du conte merveilleux, le temps familial, le temps individuel se tissent pour donner à l'enfant une nourriture. Oui, une nourriture qui vous a nourri. En général, on me dit, peut-on tout raconter aux enfants ? Non, sûrement pas un récit qui vous désespère. D'abord, vous le raconterez mal. Mais un récit qui vous a nourri, qu'il fera sien et qu'il entendra peut-être tout autrement. J'ai le choix, il est 19h27 et on m'a dit une demi-heure de questions. Donc, nous évoquerons peut-être d'autres petits genres, mais je vais vous parler, je vais vous faire une confidence, vous pouvez prêter vos oreilles avec tant d'attention que je vous la dois. C'est une confidence qui appartient à mon histoire. Donc, je parle devant la psychanalyste. Quand j'étais enfant, lorsque j'étais enfant, moi qui suis devenue spécialiste des contes et qui en ai étudié beaucoup, je n'ai jamais demandé qu'un conte à mon entourage. C'est un conte sur lequel je n'ai jamais écrit une ligne, vous le pensez bien. Nous sommes dans le registre du secret, de l'intime. Vous le méditerez à loisir. C'était le conte des trois petits cochons. Bien sûr, j'avais vu les chefs-d'œuvre de Walt Disney, qui a peur du méchant loup, c'est pas nous. Je réclamais les trois petits cochons. Tout mon entourage familial l'atteste, j'ai épuisé des générations de conteurs bénévoles à réclamer les trois petits cochons. Puis j'ai eu un fils, et lorsqu'il a eu 4 ans, un jour, nous étions dans le jardin familial, et on lui racontait beaucoup de contes, son père et moi, beaucoup de contes. Et voilà que je lui pose la question, je lui dis « mais quel est ton conte préféré ?» Et sans aucune hésitation, il me dit « les trois petits cochons ». Oui, je le lui avais raconté, mais parmi d'autres. Donc je dis, voilà, nous sommes en famille, je vois de quoi il est question, tu as envie d'être sécurisé. Mais quand même, je dis, et pourquoi ? je retourne le pourquoi. Et l'enfant, 4 ans, à l'époque, je notais tout ce qu'il disait, me répond sans sourciller, « Maman, parce que c'est notre histoire. » Surprise, oui, on a beau être universitaire, surprise de la mère, de l'universitaire, du spécialiste du conte. « Toi, maman, tu as toujours vécu dans des maisons en paille, me dit-il. » Alors évidemment, le loup est venu, il a soufflé, tu as été obligé de courir chez papa, qui lui habitait dans sa maison en bois. Mais le loup est venu, il a soufflé, papa et maman, ils étaient dehors, alors ils sont venus dans ma maison en pierre. Et heureusement que vous êtes venus dans ma maison en pierre, parce que là, vraiment, le loup ne pourra pas vous en déloger. Il peut souffler, la maison tiendra. J'ai raconté cette histoire à Monique Schneider, qui m'a dit, l'enfant au fondement de la famille, voilà une hypothèse sur laquelle nous allons pouvoir travailler. C'était pour vous dire qu'on n'en finit jamais avec la littérature orale de l'enfance. Il est 19h30, je me dois de respecter le temps qui m'est imparti, mais bien sûr, je répondrai très volontiers maintenant à vos questions. Je suis sûre qu'il doit y en avoir beaucoup. Merci de votre attention.
Je me suis régalée, je suppose que c'est le cas du drame, mais j'ai remarqué deux absentes. La sorcière et la fée. Vous ne nous avez parlé ni de l'une ni de l'autre. Bien sûr, je pourrais les remettre dans vos catégories. Mais j'aimerais, parce que j'ai une vieille histoire avec les fées qui ont été utilisées au XVIIIe siècle pour raconter des choses absolument inconvenantes. Et croyant faire un mémoire sur les fées, dans les contes, je me suis retrouvée face au divan, enfin au sofa, je veux dire, ou à Tanzaï et Léa Darnay, où le sexe du garçon est changé en écumoire dès que, etc. Bon, donc, tout va mal, mais j'aimerais vous entendre parler un peu plus. Si vous
bien sûr, très volontiers, mais ce n'est pas les seules absentes, hein. Il y en a beaucoup. C'est vrai que je ne suis pas rentrée, je vous l'ai dit, beaucoup dans les contes merveilleux, d'autant que même si ce sont ceux que nous réclament les enfants aujourd'hui, ils ne leur étaient pas spécifiquement destinés. Alors parlons des sorcières et des fées, deux figures antithétiques. Bien sûr, la fée qui est très souvent la fée marraine, donc la mère en second, qui est très souvent d'ailleurs une figure protectrice, qui va accompagner l'héroïne après la disparition de la mère. C'est le cas, par exemple, dans la Cendrillon de Perrault et dans bien des versions orales. La mère est morte et la fée marraine interviendra le moment venu pour lui donner tous les moyens d'aller au bal et de vivre son rêve, qui est de sortir de la maison pour aller à la rencontre d'un inconnu dont elle ne connaît pas encore les contours. La sorcière étant évidemment là comme une figure antithétique. Alors, si vous le voulez, votre question, pour moi, appelle deux remarques. La première réunira la fée et la sorcière sous le signe de figures, même si elles sont antithétiques, évidemment, point contre point. Hein, on peut se dire, c'est l'ombre et la lumière, de figures qui sont toujours des figures qui pourraient menacer, voire subvertir l'ordre social. On est avec la fée et la sorcière du côté de la liberté des femmes, mais du chemin du féminin si subtilement évoqué par Pierre Péjou dans La petite fille dans la forêt des contes et par François Flahault dans d'autres analyses. Vous savez, les contes, je reprends très rapidement cette distinction, là aussi il y a deux grands absents, nous proposent, au fond, pour faire court, deux chemins. Le chemin, je n'ai pas dit le chemin de l'homme et le chemin de la femme, hein. Le masculin et le féminin peuvent se tisser en chacun de nous. Le chemin du masculin, c'est le chemin rectiligne, c'est la ligne droite, le plus court chemin d'un point à un autre, vous en souvenez, c'est le chemin de la conquête, c'est le chemin du roi. Rex, rectum, rectiligne ont en latin la même racine. Le chemin du féminin, c'est un chemin à saut et à gambade qui nous engage dans les sous-bois, dans les lieux mal éclairés, dans les lieux défortunés, c'est-à-dire dans les lieux sauvages, et la fée dansant dans la clairière, ou la sorcière au sabbat, sont deux figures. Je pense à ce... C'est quoi? C'est... comment ça s'appelle? Homeland, n'est-ce pas? Vous avez de magnifiques fées qui dansent dans la clairière et dont on voit qu'elles sont extrêmement inquiétantes. Elles sont présentes dans les séries aussi. Les fées et les sorcières ici se rejoignent dans cet espace de liberté qui échappe au contrôle social. Il y a une espèce de point de fuite où l'errance, le féminin, la liberté, la folie se rejoignent. Et la fée et la sorcière peuvent être à cet égard également menaçantes pour l'ordre social. Vous me direz que la fée marraine permet à Cendrillon d'aller au bal et au fond, elle permet à Cendrillon d'accomplir son destin. Oui, il est vrai, mais il y a toujours... Tenez, hein, un ouvrage très, très, très drôle et assez subversif du père de l'analyse transactionnelle, Eric Berne. Vous savez, dans son gros livre « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?», il consacre des études au conte. Et alors lui, il pose la question « Mais que fait la fée marraine lorsque Cendrillon est allé au bal ? Pourquoi la fée marraine veut-elle à ce point envoyer Cendrillon au bal ?» La réponse d'Éric Berne n'engage que lui, c'est celle de l'analyse transactionnelle, parce que bien entendu, elle a probablement envie de s'envoyer en l'air avec le père de Cendrillon. Et comme toutes les femmes sont parties, l'espace est libre. Je vous livre cette lecture pour ce qu'elle vaut, mais vous voyez qu'il peut y avoir de la subversion même chez la fée. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est que même concernant, puisque c'est votre remarque sur les fées, notamment les fées au XVIIIe siècle, qui sont très présentes, notamment dans les contes de la Bibliothèque Bleue de Troyes et dans cette littérature qui est celle de la Bibliothèque Bleue, très souvent dans les contes, la fée est présente comme une donatrice. La sorcière peut l'être comme une donatrice hostile, hein. La sorcière peut être un adversaire, mais parfois elle est obligée de donner un objet parce qu'elle est prise à son propre piège, comme le diable stupide. Mais la fée est donatrice dans des contes qui sont très souvent des contes de l'Occident, j'allais dire pour faire court, de l'Occident chrétien. Et Madame Tenaise, Marie-Louise Tenaise, grande spécialiste du conte, récemment disparue, dont il me plaît aussi d'honorer la mémoire, tant qu'on parle d'un homme, c'est ce que nous dit la mémoire, tant qu'on parle d'un être humain, c'est qu'il est vivant. Donc vous voyez, tous ces êtres que je cite sont vivants pour moi parmi nous. Eh bien, Marie-Louise Tenaise avait émis une hypothèse que je trouve particulièrement intéressante. Elle disait, au fond, la fée surgit lorsque le conte s'humanise, lorsque, au fond, au premier plan, apparaissent, et c'est particulièrement le cas dans les contes occidentaux, des motivations humaines dans un théâtre très marqué par la psychologie. Vous voyez ? Prenons le cas, par exemple, du conte de Barbe Bleue chez Perrault. Il n'y a pas de fée, il y a juste une sœur Anne sur la tour solitaire, mais il n'y a pratiquement plus d'éléments merveilleux, si l'on accepte la clé fée, c'est-à-dire la clé magique. Quand on enlève du sang d'un côté, il s'enlève de l'autre. Dans les contes occidentaux, très souvent, la fée joue le rôle de la donatrice. Mais vous remarquerez que déjà chez les frères Grimm, il n'y a pas de fée marraine. Cendrillon s'en va pleurer tous les jours sur la tombe de sa mère. Et de ses larmes et du terreau de la tombe de sa mère, eh bien, va naître un arbre. Et sur cet arbre qui est né sur la tombe de sa mère, viendront se poser des oiseaux qui seront ensuite des donateurs ou des auxiliaires. Et la thèse de Madame Tenaise était la suivante. Le rôle du donateur occidental, qui peut être un être surnaturel, la fée, dans le conte merveilleux occidental, sera tenu par un animal, peut-être, en Asie. Nous évoquions tout à l'heure l'importance des oiseaux et des animaux dans les contes indiens, et peut-être par des plantes dans les contes africains. Et pour l'étude de certaines variantes de grands contes, ça marche, vous voyez ? Donc la fée marraine est là, mais c'est quand même une figure très marquée, me semble-t-il, enfin très importante dans la littérature orale de l'Occident. Voilà, il faudrait chercher d'autres donateurs dans des littératures plus éloignées de nous. J'ai répondu trop longuement. Madame.
Bonjour, bonjour, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je vous avais parlé à un moment des contes d'avertissement, de la peur, etc. Le fait que c'était critiqué, mais finalement, ça pouvait être approprié. De toute façon, ça pouvait quand même être utile dans certains cas. Moi, j'ai une question. Au-delà de ce conte d'avertissement, la présence de la peur dans les contes. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez des amis qu'on voit régulièrement, qui ont un tout jeune enfant qui grandit. Et le papa disait, notre enfant, il avait peur de rien, il ne faisait jamais de cauchemars. Et puis là, il a traîné avec d'autres enfants, ils lui ont raconté des histoires de fantômes, d'autres histoires. Et en fait, c'est à cause des autres qu'il s'est mis à apprendre... des histoires fausses et qui s'est mis à connaître ce que c'est que la peur. Et du coup, maintenant, il fait des cauchemars. Et idéalement, en gros, ce qui sortait de son discours, ça veut dire qu'idéalement, il ne faudrait pas forcément raconter des histoires où il y a des éléments qui peuvent faire peur. Et que du coup, l'enfant, il grandirait sans connaître trop la peur, sauf les peurs effectivement très nécessaires. Mais du coup, c'était beaucoup plus simple comme ça. Et du coup, je me suis interrogée un peu parce que je ne sais pas du tout ce qu'on entend. Moi, je sais que l'enfant, de toute façon, avait des fantasmes et que les contes, ça permettait de faire sortir ses fantasmes. Mais du coup, je m'interroge. Oui, c'est une vraie question.
Que vous posez là, elle est extrêmement importante. Au fond, c'est l'histoire du remède qui serait pire que le mal. D'abord, j'ai quand même une remarque sur le répertoire que vous venez d'évoquer. Je pense que les images peuvent être traumatisantes, notamment quand elles ne sont pas accompagnées de commentaires ou de récits. Et vous savez à quelles images peuvent être très tôt confrontés des enfants qui peuvent être confrontés simplement à l'écran de télévision au moment du bulletin d'information. D'accord ? Au moment du journal, le bulletin d'information. Je délire, au moment du journal. Voilà, nous étions... Vous avez évoqué des histoires de fantômes. Il est effectivement possible que des enfants, il y a des histoires qui sont... Il y a tout un répertoire de la peur, dont le film d'épouvante ou le film d'horreur serait, pour l'adulte confirmé, une expression très forte. Moi, je ne parle pas de ces récits-là. Je parle de récits... Vous le remarquerez, qui sont inscrits dans la mémoire longue. Je crois que la première règle, c'est de ne raconter à l'enfant. D'abord, il s'agit plutôt de raconter que de lire, encore qu'on pourra revenir sur cette distinction, parce que ce n'est pas la même chose, mais que des récits qui soient nourriciers pour vous, avec lesquels vous soyez en accord. Tout en sachant que les peurs que vous allez peut-être projeter sur l'enfant sont les vôtres et pas nécessairement celles du jeune enfant. Il faudrait s'interroger sur le papa qui dit « je n'en raconterai jamais, tenons-le à l'écart ». Alors, j'ai un exemple, mais d'abord une remarque pour aller dans le sens de votre question. L'enfant va devoir apprendre, il va grandir, il va devoir apprendre à vaincre des peurs, à vaincre peut-être sa peur d'une épreuve, à vaincre éventuellement la peur du groupe, à vaincre la peur de l'inconnu. Et les récits nous apprennent, les récits traditionnels, de manière graduée, à franchir des épreuves, à franchir des caps. Il y a un très bel exemple, c'est le conte de Jean sans peur, précisément. Le garçon qui partit en quête de la peur. Dans la version des Frères Grimm, elle est très belle, c'est l'histoire d'un qui partit pour apprendre le tremblement. C'est un garçon qui n'a jamais eu peur de sa vie. Et donc, toute son expérience, bah, il va aller, oui, c'est vrai. Alors, il ne rencontre pas des fantômes. Les fantômes sont peut-être marqués un peu au coin d'Halloween. Mais il va aller jouer aux cartes avec le diable, jouer aux quilles avec des têtes de mort, passer la nuit dans un château hanté, etc. Et il ne connaîtra pas ce qu'est la peur jusqu'au jour où il se mariera et où il apprendra, grâce à un stratagème de son épouse, qui, la nuit venue, va jeter un seau d'eau avec des poissons frétillants dans le lit conjugal, que la seule véritable peur ne peut lui venir que de la femme, et c'est celle qui fera de lui un homme. Il apprendra ce qu'est la peur. Alors, ce n'est pas un conte pour les tout petits enfants, il est vrai, mais vous voyez que c'est un conte d'apprentissage. Donc, un conte d'apprentissage de la peur. Je crois que si le récit est un récit avec lequel vous vous sentez en accord, vous allez le raconter à l'enfant. Et l'enfant, vous savez, il intervient comme un, comment dire, comme un auteur à part entière dans le conte. Il va dire « ah mais après, attends, il n'est pas resté là, il s'est passé autre chose. » Et vous adaptez. J'ai deux exemples à évoquer. Je vais choisir, nous sommes entre adultes, donc je vais en choisir deux. L'un est drôle, l'autre l'est peut-être moins, mais je crois que la question que vous posez est vraiment très importante et elle le mérite. Le premier, c'est celui de mon ami François-Ruy Vidal, auteur, grand auteur et éditeur de livres pour la jeunesse. Il a travaillé avec Arlene Quist. Il était le septième enfant d'une famille nombreuse. Il avait de mauvais souvenirs, je ne sais pas de l'enfance, mais en tout cas du petit Poucet, car pour lui, l'histoire de ses parents qui abandonnent délibérément des enfants dans la forêt était une histoire insupportable, insoutenable, désespérante. Elle l'avait désespéré. Et donc, il se dit, si un jour j'ai un enfant, je ne lui raconterai jamais. Alors, il a raconté toutes sortes de contes. Il en a écrit, il en a illustré aussi. L'enfant a été tenu à l'écart, non pas de tous les récits, mais du récit pernicieux, le petit Poucet, jusqu'au jour où il est allé à l'école. Et un jour, il rentre et il dit « Papa, j'ai entendu une histoire formidable, tu ne la connais pas. Je vais te la raconter, c'est le petit Poucet. » Alors, c'est des parents, ben, tu vois, ils étaient très pauvres, ils n'avaient pas à manger. Ils ont perdu leurs hommes. Voilà, ce n'est pas comme ça. Il dit « Tu veux me la raconter ?» Oui, dit François-Ruy Vidal, je vais te la raconter. Un jour, des parents étaient allés se promener dans la forêt avec leurs enfants, mais la nuit est tombée, les enfants s'étaient éloignés et voilà qu'ils se sont perdus. Pas du tout, dit le fils, tu connais pas l'histoire. Il les avait perdus exprès. Et il a commencé à lui expliquer qu'il était très très important que ce petit Poucet, qui servait de guide dans la forêt, qui allait escalader les arbres, qui allait repérer la petite lumière, triomphe de l'ogre, c'était pour lui une histoire de conquête, c'était beaucoup mieux qu'Harry Potter, ou c'était Harry Potter avant l'heure. Et François-Ruy Vidal en a fait un livre, Le petit Poucet de François-Ruy Vidal. Grâce à son fils, il a pu se réconcilier avec le conte, vous voyez ? J'ai un autre exemple, plus douloureux, mais véridique et important. Il y a peut-être parmi vous des gens qui travaillent avec des enfants. C'est celui de ce conteur qui travaillait en établissement spécialisé. Et à l'époque, il travaillait à l'hôpital des enfants malades à Necker. Et il venait raconter des histoires aux enfants. Et il y avait une petite fille qui était atteinte d'un cancer qu'on savait condamnée à assez brève échéance et qui demandait... aux gens qui venaient la voir, et en particulier au conteur, de lui raconter une histoire, toujours la même. Et lui ne voulait pas, parce qu'il trouvait cette histoire désespérante. C'était la chèvre de M. Seguin. Conte d'auteur qui se termina mal, vous le savez, puisque la chèvre est mangée par le loup. Et lui racontait cette histoire-là à cet enfant-là. Alors il lui en proposait des tas d'autres, mais toujours elle le lui réclamait. Et un jour, bah, il s'est dit, j'y vais, quoi. Il travaillait avec moi, d'ailleurs. Donc, je vais le lui raconter. Et plus exactement, il a pris le livre de Daudet. Il m'a dit, il l'a lu. Il m'a dit qu'il est arrivé à la fin de l'histoire et que vraiment, la voix lui manquait. La petite fille avait écouté très sereinement dans son lit. Elle l'a remercié. Et elle lui a dit, tu vois, tout le monde se trompe. On croit que le loup a vaincu la chèvre de M. Seguin, mais c'est faux. Elle s'est battue toute la nuit. Elle s'est battue toute la nuit, elle s'est bien battue. C'était une vaillante petite chèvre. Simplement, quand le matin est venu, elle était fatiguée, elle a décidé de se reposer. Voilà, ce n'est pas le loup qui a triomphé d'elle. Et cette histoire, pour cette petite fille, était une histoire qui ne parlait pas de la mort choisie, mais de la mort librement consentie. Il m'a dit « je ne l'ai jamais vue aussi sereine qu'à cet instant-là ». Elle m'a remercié de lui avoir lu cette histoire. Donc, vous voyez, très souvent, nous avons d'abord à régler des comptes avec ces histoires avant peut-être de les faire passer à l'enfant. Mais moi, je suis pour la pédagogie de l'enthousiasme. Je crois que la vie est trop courte pour qu'on raconte des récits qui ne sont pas nourriciers pour nous. Donc, si je raconte des histoires à un enfant ou si je commande des contes avec mes étudiants, bien évidemment, je raconterai des contes où j'évoquerai des contes qui m'apparaissent comme des contes fondateurs. Quant à priver l'enfant de récits, et il faut que j'arrête parce qu'il y a d'autres questions, mais quant à priver l'enfant de récits, là, c'est vraiment, vous imaginez, ne pas pouvoir mettre des mots qui donnent sens à des événements qui seront peut-être dans sa vie des événements douloureux, des événements inacceptables. Et, je veux dire, je crois que faire l'apprentissage du récit, ce ne sont pas des mensonges. On est dans des récits qui donnent sens à ce que nous vivons. Alors, ce n'est peut-être pas des histoires de fantômes. Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais raconté d'histoires de fantômes, par exemple. Mais après tout, il faut voir. Est-ce que l'enfant a entendu des contes? Il pourra en entendre de ses parents et puis il trouvera le conte qui lui convient, qui lui donne une voie d'accès pour répondre à la question qu'il se pose. D'autres questions? Il y en a d'autres? Oui, Catherine. Non, monsieur. Il y en a là-bas? Monsieur.
Bonjour, et merci pour la conférence. Je voulais vous poser la question de la place de la sérendipité dans les contes oraux, en fait, par rapport aux contes écrits.
Ah, c'est très beau. C'est une très belle question, j'aime beaucoup. Alors, la sérendipité, serendipity, vous savez, c'est un mot anglais qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais qui est très, très, très fréquemment. Ça revient fortement aujourd'hui. Comment dire, la capacité à faire, par hasard, des découvertes heureuses. Christophe Colomb s'en va sur la mer pour découvrir les Indes, et il découvre l'Amérique. Là, vous êtes à la recherche d'une... On rencontre ça beaucoup dans les sciences, d'une loi physique, d'une loi d'expérience, et voilà que la réponse vous est donnée par d'autres biais. Il va falloir la lire. Donc, la serendipité, on est d'accord, hein, c'est le hasard objectif, la synchronicité dont parlaient les surréalistes, André Breton. Dans les contes, particulièrement dans les contes merveilleux, mais dans les contes, il y a une belle formule de l'ethnologue allemand Max Luthi qui disait « Le conte merveilleux est une forme qui abolit, qui nie le hasard. Pourquoi ?» S'il nie le hasard, il n'y a pas de place pour la serendipity. Mais il va falloir expliquer. Parce que, je vais essayer d'expliquer, évidemment c'est une question qui pourrait nous réunir pendant un séminaire, votre question, monsieur, donc je vous remercie de l'avoir posée, mais parce que dans le conte, la particularité du conte merveilleux, si elle tenait en un mot, le pitch, vous voyez, le pitch de Marie-Louise Tenez, j'espère que sa bonne âme ne m'en voudra pas d'utiliser le pitch, c'est que dans la vie, vous rencontrez des épreuves, vous cheminez, vaille que vaille, quelquefois, bien des années après, vous vous dites « j'aurais dû faire ça », et quelquefois, bien des années après, le moyen de vaincre l'épreuve ou de répondre ou de traverser l'épreuve vous est donné par une autre épreuve de la vie, ce qui ne se produit jamais dans le conte. Parce que dans le conte, le moyen magique, l'objet magique, est toujours fourni au héros avant qu'il n'ait à affronter l'épreuve, avant qu'il n'ait à combattre le dragon, il aura reçu les moyens de le vaincre, en général d'un donateur qui peut être une fée ou un oiseau ou un animal. Avant de répondre à la question de la sphinge ou du sphinx, enfin, ou de l'équivalent, on lui aura donné la réponse. Il aura rencontré sur sa route une vieille femme qui l'aura peignée alors qu'elle était couverte de poux à la fontaine, à laquelle il aura donné son dernier quignon de pain. Il lui aura fait boire de l'eau. C'était une fée, même si elle a l'air d'être une sorcière. Et elle lui aura dit « Bon, chaque fois qu'il t'arrivera quelque chose, tu n'auras qu'à dire « tchaï ». Il dit « Bon, d'accord, je dirai « tchaï ». Lui ne sait pas à quoi ça correspond. La fée marraine, la donatrice, si. Elle sait que chai est un mot magique qui a le pouvoir de coller ensemble des objets à l'instant où je dirais chai, si nous étions dans le conte, mon verre, ma main resterait collée à ce verre pour l'éternité. Vous voyez, ce n'est pas très commode. Mais si Catherine vient pour me libérer, eh bien, et qu'elle pose sa main sur mon épaule, on dira chai et nous resterons ainsi. C'est le conte de tous collés ensemble. Ce moyen magique permettra au héros, par des chemins qu'il serait trop long de vous expliquer maintenant, vous le comprenez bien, mais de traverser toutes les épreuves. Donc, on peut se dire que, au fond, la serendipity dont vous parlez, elle existe dans cette adéquation parfaite entre le moyen magique qui est fourni au héros, la réponse qui est fournie au héros et la question ou l'épreuve qui l'attend. Mais pour le donateur, ça n'est pas un hasard. Parce que le donateur est presque doté du don de prophétie, vous comprenez. Lui connaît les épreuves qui l'attendent. Il dit « tu n'auras qu'à dire cela ». Lui sait à quelle question le héros va être confronté. Mais pour le héros, bien entendu, on peut se dire que c'est de la sérénité. Il est doté de tous les objets magiques qui lui permettront d'affronter les épreuves. Nous rêvons de cela pour nos vies, voyez ? Nous rêvons de cela pour nos vies. Mais je crois qu'on rencontre parfois cela avec le conte. On peut rencontrer un conte qui nous permettra de traverser ensuite l'épreuve qui nous attend. Je veux dire, ça peut être de l'ordre de la rencontre heureuse. Mais en tout cas, dans la mécanique du conte, il n'y a pas de hasard. Parce que, par exemple, il n'y a jamais un objet magique qui serait donné au héros et dont il n'aurait pas l'utilité. C'est une machine de rêve où tout fonctionne. Vous voyez, on a parlé d'un mécano du conte. Ça s'enclenche parfaitement. Je crois que vous aviez une question, mais le micro vous revient.
C'est pas une porteuse de micro, c'est une gazelle. Hein.
C'est une gazelle, mais c'est une donatrice du conte.
Avant de poser ma question, je voudrais d'abord vous raconter une anecdote qui m'a été racontée par le psychanalyste indien Sudhir Kakar, et qui a trait à Bethlehem justement, et qui règle en partie la question du rapport du symbolique et du réel, en partie. Hein. Il a croisé dans son hôpital, enfin dans sa clinique, une vieille dame qui tricotait, qui était une patiente, qui tricotait. Et il dit « Ah ah, on se masturbe !» Et elle lui a répondu « Docteur Bethlehem, quand je tricote, je tricote, et quand je me masturbe, je me masturbe. » Et c'est ceci pour mettre les choses un peu à distance. Non, moi, je voulais simplement, je suis en attente du petit chaperon rouge, c'est tout, vous avez dit que vous en parleriez, donc je voudrais y revenir, enfin, que vous y reveniez.
Oui. J'en ai parlé à propos de la question de savoir, il faut qu'on arrête impérativement à 20h, ou on peut arrêter à 20h05, non, c'est 20h. Hein ? Ouais, d'accord, ok. Alors, j'y réponds très brièvement, il me reste 2 minutes. Le conte du petit chaperon rouge de Perrault pose évidemment un problème curieux. Pourquoi cette petite fille est-elle dévorée par le loup alors qu'elle n'a enfreint aucun interdit et que personne ne l'a avertie des dangers encourus ? Chez Perrault, c'est très clair. Il va accompagner son conte d'une moralité en vers qui va avertir les jeunes filles sur les dangers de l'amour. Méfiez-vous des loups qui pourraient vous compter fleurettes dans les bois. Promenez-vous dans les bois pendant que le loup n'y est pas, mais si le loup y est, méfiez-vous de lui. C'est un conte d'avertissement sur les dangers de l'amour. Dans les versions orales, que nous n'aurons pas le temps d'évoquer ce soir, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, eh bien, le conte ne se termine pas de cette manière. La petite fille trouve en elle les moyens de sa propre sauvegarde. Elle triomphe du loup grâce à sa ruse, grâce à une ruse qui est très souvent une ruse scatologique, et on s'aperçoit, si on fait l'inventaire des contes, mais ce n'est pas des motifs, ce n'est pas du tout la même histoire que celle que nous conte Perrault. Il y a un striptease du petit chaperon rouge, il y a une grand-mère dont on va manger la chair et le sang, on va manger, dont la petite fille mangera le chair et le sang, il y a un animal qui dénonce le meurtre, bref, c'est une histoire, c'est intéressant par rapport au fantôme, parce que c'est une histoire dont on pourrait penser qu'elle ne doit pas être mise entre toutes les oreilles, mais dont on a des centaines de versions, et c'est vraiment savoureux, je vous l'assure, je suis prête à venir faire une conférence sur le petit chaperon rouge, et bien on s'aperçoit que dans la tradition orale, c'est un conte d'initiation des jeunes filles, et que par conséquent, il faut au contraire qu'elles parlent au loup, qui les attend au carrefour, car c'est par le loup qu'elles deviendront adultes et qu'elles apprendront. Alors dans ces contes-là, le loup ne les dévore pas, voyez. Elles arrivent au bord de la révélation, et puis in extremis, c'est pour te manger. Elles se sauvent, mais vous savez, elle trouve en elle-même les moyens de cette sauvegarde. Je terminerai par une randonnée, si vous voulez. Je voulais évoquer la berceuse, mais je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas évoqué non plus la randonnée. J'en ai une très belle pour finir, que je vous donne. Les enfants adorent les randonnées, parce que les randonnées nous permettent vraiment de faire travailler la mémoire. Qu'est-ce qui est plus fort que le soleil ? C'est le nuage qui le cache, dit la randonnée. Qu'est-ce qui est plus fort que le nuage ? C'est le vent qui peut chasser le nuage. Qu'est-ce qui est plus fort que le vent ? C'est la montagne qui seule peut arrêter le vent. Qu'est-ce qui est plus fort que la montagne ? C'est l'homme qui peut seul déplacer des montagnes. Qu'est-ce qui est plus fort que l'homme ? La femme. Et là, la randonnée ne dit pas pourquoi. Voilà, merci de votre attention.